Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour une heure en série, le 20e épisode de cette première saison riche en rebondissements, coups de théâtre et coups de fiel, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une émission qui chaque semaine essaye de distinguer ce qu'il y a d'intéressant à regarder sur le petit écran en termes de séries télé ou ce au contraire que l'on peut vraiment éviter. Il y aura de tout d'ailleurs ce soir dans cette émission.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et j'ai autour de moi pour cette 20e émission Ava Kahn. Bonjour.
Bonjour Xavier.
French Mania. Et également le Cercle Cinéma avec Augustin Trapenard. Isabelle Danel pour Bandapart.fr. Une excellente revue numérique, on va dire les choses comme cela.
Bonjour.
Et l'indispensable, bien sûr, Benoît Lagan, que vous retrouvez entre autres tous les vendredis à 5h53 dans l'excellente matinale de Mathilde Munot.
Cette Salut semaine. Salut à toutes et à tous.
Pardon, Benoît. Oui,
c'est je vrai dis bonjour.
Ouais, non, ça c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, somme toute. Cette semaine, nous parlerons magnat de la presse et manipulation des masses avec The Loudest Voice sur Canal+, Sirène vengeresse et polar écologique avec Une île sur Arte et Sorcier flegmatique et monstre baveux dans The Witcher sur Netflix. Nous sacrifions le courrier pour dire un mot sur les Golden Globes qui ont été attribués il y a quelques jours déjà, puisque dans quelques instants nous allons parler d'un des lauréats, même s'il n'a pas reçu le prix principal, qui est The Loudest Voice. Ava, vous aviez suivi d'ailleurs la cérémonie pour Canal.
Absolument. J'ai donné tout mon corps à cette cérémonie.
En bref, Succession a gagné.
Absolument, Succession, Brian Cox, qui joue Logan Roy, le patriarche. Voilà, Succession,
Donc
formidable série.
Vous avez parlé absolument. La semaine dernière.
Il y a quelque chose à voir avec Game of Thrones. Hein, voilà, un empire, une famille.
Shakespearean à mort,
absolument.
On est d'accord.
Patricia Arquette a également été récompensée. Le grand triomphe, c'est Fleabag, hein, de Phoebe Waller-Bridge. Et c'est bien mérité parce qu'on s'identifie.
On est tous d'accord.
À cette héroïne des temps modernes. Absolument. Et puis ce Hot Priest, bien sûr. Et puis Russell Crowe, voilà. Merveilleux dans The Loudest Voice qui joue un rôle compliqué et on va en parler, celui de Roger Ailes, patron de la Fox.
Et c'est pas pour s'auto-enorgueillir d'avoir un tout petit peu de flair, mais Rami,
et
quand
oui,
même l'acteur de
seule
Rami.
Nomination, et puis voilà, c'était la grande surprise de la soirée, hein. Formidable que Rami Youssef ait été primé meilleur acteur, donc, dans une série comique.
Et série chouchou, effectivement,
oui,
là aussi,
on l'avait
dans
beaucoup
une heure en série. Vous étiez là, Benoît?
Oui, oui. Non, ça correspond assez bien, finalement, à ce que les Golden récompensent de façon générale, c'est-à-dire des séries pour un télo, face à un public d'un télo. Donc, c'est très bien. Non, ça correspond bien au principe. J'attends de voir les Emmy pour comparer. Ça va être rigolo. C'est à la fois extrêmement mérité, parce que les séries, déjà, on avait parlé de la sélection en elle-même, mettait dans l'entonnoir, et évacuait un certain nombre de séries. Alors là, qu'il y ait même plus Game of Thrones, qui est la plus populaire des séries vues aussi par les intellos, c'est assez rigolo.
Alors accrochez-vous à votre fauteuil, ça va être douloureux. Ouais. C'est fini Game of Thrones, Benoît.
Oui, mais
quelqu'un qui parle de l'actualité des séries, vous êtes au top quand même.
Non, mais ça c'est comme ça.
Bon, alors justement, nous allons parler dans quelques instants de The Loudest Voice qui est diffusée sur Canal+, une mini-série de 7 épisodes. Et nous allons écouter justement la voix du vainqueur, du lauréat de cette soirée, Russell Crowe, extrêmement inquiétant.
Television is the most powerful force in the world.
This is no time for politics.
It's war.
Anyone outside Fox is the enemy. And we do not talk about what we do.
I spoke with the president. We'd like your help moving forward.
Whatever you need, Carl. Fox News will back it.
No!
I need absolute loyalty.
We will make history.
Alors on l'a entendu, Power, The Loudest Voice, c'est l'histoire, l'ascension et la chute, tout aussi vertigineuse d'ailleurs, de Roger Ailes, le fondateur de la très conservatrice et très controversée chaîne d'information. Est-ce qu'on peut parler de chaîne d'information en parlant de Fox News?
Outil de propagande.
Voilà, il y a un gros point d'interrogation. Il nous a quittés en 2017, zéro regret, hein, on est bien d'accord.
Voilà.
Le portrait sur 12 ans, mais 7 années charnières et symboliques, soit donc une année par épisode, de cet ogre paranoïaque, manipulateur et propagandiste qui instrumentalisa entre autres le 11 septembre, se fit le porte-parole du mensonge d'État de George Bush Jr. lorsqu'il décida d'attaquer l'Irak, ou mit tout en œuvre pour anéantir la présidence de Barack Obama. Un bon père de famille qui ne supportait pas qu'on lui résiste, ni les journalistes qui étaient sous ses ordres, ni les femmes dont il faisait ses proies. L'inventeur des fake news, patriote jusqu'à l'obscurantisme, doublé d'un prédateur sexuel qui, dans l'ombre de la lumière télévisuelle, a changé pour longtemps l'histoire géopolitique du 21e siècle. Alors, pour les petits renseignements techniques, c'est adapté du livre « The Loudest Voice in the Room » de Gabriel Sherman, la série, puisqu'il y a plusieurs choses, il y a un documentaire et également un film dont nous allons parler dans quelques instants. La série a été créée par Tom McCarthy, le scénariste de l'excellent Spotlight. Hein, je pense que là, ils ont quand même du nez pour lui confier cela. Et Alex Metcalf, qui est le producteur et scénariste d'une série un peu passée, malheureusement inaperçue, et que j'adore, qui est Kingdom, qui est une remarquable série qui se passait à Los Angeles dans un centre sportif. Donc, avec Russell Crowe, Sienna Miller, qui est
formidable.
Formidable, ouais. On ne la reconnaît pas. Naomi Watts et Seth MacFarlane. Je vous disais donc justement qu'il y avait un documentaire. Isabelle va nous en parler dans quelques instants, mais sur le même sujet, plus centré en revanche sur les accusations fondées, très fondées de harcèlement sexuel, la sortie sur les écrans le 22 janvier de scandale de Jay Roche, avec un casting tout aussi prestigieux, Charlize Theron, Nicole Kidman, Marco Robbie, qui se ressemblent complètement. Je n'ai jamais réussi à distinguer l'une de l'autre pendant tout le film. Et John Lithgow dans le rôle donc de Roger Ice. Isabelle.
Alors, c'est intéressant à plusieurs titres, du point de vue de l'histoire, évidemment, de cet incroyable pouvoir dont cet homme use et abuse. C'est intéressant du point de vue des médias et de leurs dérives, puisqu'on voit comment, vous l'avez dit, le 11 septembre, l'affaire Monica Lewinsky, enfin, toutes ces choses qu'il a instrumentalisées pour flatter la base, comme il dit, et avoir la moitié de l'électorat pour lui. C'est évidemment, bien entendu, intéressant du point de vue de la place des femmes, de leur prise de parole sur le harcèlement sexuel et de la libération plus générale de la parole. Puisque l'affaire Harvey Weinstein est arrivée un an après...
Un an après la mort.
Un an après l'éclatement de l'histoire et la mort quelques semaines plus tard. Je sais qu'ici, on est là pour parler de série, mais c'est vrai que là, très étrangement, il y a comme une espèce de paquet, je vous avais parlé du film, il y a ce documentaire aussi qui fait qu'à un moment donné, quand on a vu les trois, on a une espèce de recoupement de faisceaux, de choses qui sont assez intéressants, parce que voilà, on est dans une fiction, c'est une série, etc. Mais il y a un nombre de phrases qu'on retrouve dans le documentaire, des phrases épouvantables qu'il dit sur les gens, sur les femmes notamment, etc. On les entend relatées par d'autres ou dites par lui. On voit évidemment dans la série un moment très très important avec Megyn Kelly qui est une présentatrice et qui affronte Trump lors d'une interview et celui-ci après l'a traité absolument de tous les noms, etc. Donc il y a vraiment relaté par le menu le détail de comment cet homme a pu faire ça. Et moi, ce qui me trouble énormément et ce qui me fascine dans l'âme humaine, c'est comment des gens peuvent être à ce point-là dans l'emprise du pouvoir et ne pas croire qu'à un moment donné, ça va leur retomber dessus. Alors, ça ne l'explique pas, par contre, mais il y a quelque chose qui fait que l'ivresse des auteurs dans cette série, l'ivresse des auteurs vous rend absolument...
Psychopathe.
Voilà, on peut dire ça. À tous ces titres-là, la série est intéressante. Après, moi, j'ai un tout petit bémol sur la mise en scène. C'est vrai que moi, j'avais vraiment une passion pour Spotlight que je trouvais extrêmement réussie. Et là, je trouve que c'est quand même un poil appuyé. Après, c'est difficile de montrer un monstre sans être monstrueux, mais voilà, je trouve que c'est un poil appuyé dans la mise en scène, que de temps à autre, Russell Crowe a eu le prix, on est content, mais en même temps, je le trouve lui aussi très, très... à la fois méconnaissable et très voyant, quoi. C'est très bizarre, la sensation que ça m'a fait.
Toujours été un tout petit peu la carte de visite de Russell Crowe, quand même, de toute
façon.
C'est
pas faux.
Qu'est-ce que la dramaturgie d'une série, quand même, puisqu'on est presque à 7 heures de récit, apporte peut-être par rapport à un film ou par rapport à un documentaire, Benoît?
Ce qui est bien, c'est que justement, c'est tellement énorme, cette histoire. Il n'y a pas que Russell Crowe qui est énorme dans cette série. C'est toute l'histoire qui est énorme. Il y a tellement de choses. Il y a effectivement la création de Fox News. Il y a comment cet homme, qui est celui qui parle à l'oreille des présidents, va construire et monter petit à petit Donald Trump. Il y a toutes ces histoires, effectivement, d'harcèlement sexuel. Il y a comment on va raconter, inventer la désinformation jusqu'au petit niveau du journal local où habite cet homme. Donc il y a tout ça. Donc la série, ça permet de développer tout ça.
Et la vie de famille, l'hypocrisie
de la vie de famille. L'évolution dans le temps. Du coup, chaque épisode est axé sur une année. 95, 2001, 2008, 2009.
Tout s'accélère.
Ouais. Avec des dates clés. Le 11 septembre, bien évidemment, la victoire d'Obama, celle de Trump à la fin annoncée. Enfin, tout ça fournit de la matière à série. Avec un petit problème à mon avis, c'est que justement il y a tellement trop de choses que les 7 épisodes sont presque trop peu. Vu qu'on a un film et un documentaire, pourquoi ne pas aller encore plus loin dans la fiction? Et moi, par exemple, le petit bémol que j'ai, c'est sur la façon dont est traité parmi toutes ces affaires le harcèlement sexuel. Je trouve que c'est presque sous-traité dans la série, en équilibre par rapport au reste.
Pas tout à fait le propos, en fait. C'est vraiment le portrait d'un monstre. Hein. Xavier, vous l'avez dit, c'est un ogre. Hein. Il a des kilos en plus, Russell Crowe, il est tout à fait grimé. Il y a une vraie performance un peu d'acteur studio. Non, moi, c'est une série qui m'a vraiment séduite. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était haletant. J'aime en règle générale le travail de Tom McCarthy, comme vous l'avez rappelé, qui avait réalisé Spotlight. Et puis, il a ce rapport très direct, très frontal avec la réalité. Il va fouiller ces endroits les plus sombres, les plus obscènes. Et c'est précisément la matière, voilà, qu'aime travailler McCarthy. Ce que la série montre aussi, c'est comment la chaîne Fox News fabrique donc de la désinformation, sert l'intérêt d'un parti, devenant un véritable outil de propagande. Évidemment, il y a un regard très critique qui est porté sur tout ça, un regard transversal, comme tu l'as dit, Benoît, qui cible plusieurs décennies. Russell Crowe, donc dans le rôle de Roger Ailes, est absolument formidable, mais incarne ce type dégueulasse qui fait penser à Donald Trump. Hein. Il aime voir les jambes nues des présentatrices. Il aime grab the woman by the pussy. Je cite l'homme dans le texte. Hein. Donc voilà. Et puis c'est celui de loudest voice, celui qui porte la voix effectivement dans ces réunions, qui s'impose. C'est vraiment une série de l'ère post-Weinstein et je trouve ça intéressant d'examiner ce genre de personnage dont voilà du méchant quoi j'allais dire. Et le film Scandale au contraire va prendre le parti des victimes. Donc voilà, ça fera le miroir, l'effet miroir.
Voilà, nous venons de parler de The Loudest Voice donc sur Canal+, une série en 7 épisodes.
Ah bah d'accord.
C'était Junior avec un E, un groupe féminin qui nous interprétait Ah bah d'accord, avec à sa tête et au chant Anna Jean, qui est la fille de Jean-Marie Le Clésio. Comme quoi, finalement, la pomme ne tombe pas très très loin de l'arbre, comme on dit. C'est un groupe coqueluche en Grande-Bretagne, du yéyé frondeur féministe, un peu 60s, comme ça. Et ce titre est extrait de l'album à venir courant 2020, 1, 2, 3. Elles seront le 7 avril à la Maroquinerie à Paris et en tournée ensuite dans toute la France, Bordeaux, Montpellier, playlist de France Inter. Excellent choix de Muriel Pérez, comme toujours.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de la petite pépite inédite. Restons dans le politique et ses arcanes avec Total Control, une série australienne de 6 épisodes diffusée actuellement donc sur ABC et pas encore en France. Hélas, après avoir tenu tête à un tueur fou, une jeune femme aborigène est approchée par la première ministre australienne, très proche de la réalité actuelle, pour occuper le poste vacant d'un sénateur venant de décéder. Un choix autant stratégique qu'opportuniste, à la veille d'élections qui pourraient s'avérer déterminantes, car la première ministre ne doit sa majorité de droite rigoriste qu'à un seul poste de sénateur. Une femme noire, rurale, figure locale dans sa circonscription et héroïque, Alex Harving a évidemment tout sur le papier pour jouer les minorités visibles et utiles et silencieuses. Car on voudrait bien qu'elle se cantonne à la fonction qu'on lui destine, malheureusement une obédience qu'elle ne va pas tarder à faire voler en éclats. Une série vraiment mais enthousiasmante, parce que politique à plusieurs niveaux. D'abord écrite avec l'efficacité d'un thriller en chambre sénatoriale, avec ce qu'il faut de coup bas et de mépris de caste, et énormément de pugnacité dans sa description au microscope à peine déformant du monde politique australien. C'est troublant de la regarder tout en regardant actuellement, malheureusement, avec la tragédie des incendies et la présence très translucide, on va dire, du Premier ministre à la télévision. L'autre qualité de cette série, c'est sa manière de dénoncer sans embâge les conditions de vie des natifs australiens, les aborigènes, des sous-citoyens malmenés et méprisés par les Blancs qui ont conquis le pays, un peuple privé de sa langue, de sa culture et de ses terres. C'est une série qui a été écrite à 6 mains, dont celle de la comédienne qu'on adore, Rachel Griffiths, est-il besoin de rappeler, au cinéma Muriel, dans les séries Six Feet Under, ainsi que Brother and Sister, et qui campe ici une première ministre de droite manipulatrice et ambiguë à souhait, une garce à la Margaret Thatcher qu'on déteste adorer ou qu'on adore détester, bien évidemment. Face à elle, dans le rôle d'Alex, Deborah Mailman, qu'on connaît peu, très connue en Australie, mais moins ici, et qui est absolument extraordinaire dans le rôle principal de cette série que je vous recommande avant qu'elle n'arrive en France, Total Control. Vous êtes toujours dans une heure en série sur France Inter avec Ava Cahen, Isabelle Danel et Benoît Lagan. Et nous allons nous embarquer pour une île sur Arte, diffusée depuis le 9 janvier et jusqu'au 16, mais que vous pourrez tranquillement revoir ou pas sur Arte TV. Je l'ai dit ? Non, je l'ai pas dit.
Non.
D'accord, j'ai eu peur. Une île éloignée du continent et le théâtre d'événements inquiétants. Les poissons, principales ressources de l'île, commencent à manquer cruellement. Encore plus grave, on retrouve sur la plage des cadavres d'hommes dont les lèvres sont scellées par une étrange croûte de sel. Au même moment débarque Théa, une jeune femme autant mystérieuse que séduisante.
Chloé. Oh, Chloé. T'es là ?
Tu sembles soucieuse.
Je suis un peu fatiguée. Je dors pas très bien en ce moment.
Des cauchemars ?
Pourquoi vous notez ce que je dis ?
C'est pour mon remplaçant.
Vous partez ?
Oui. À la fin du mois. Mais t'en fais pas, on reste en contact. Et je vais te laisser mon numéro.
D'accord ?
Maman, j'y vais. M'attends pas pour manger, je vais dormir chez Chloé.
Mais tu sais que j'aime pas que tu traînes avec elle.
Ce soir, je me la fais la Sainte-Mitouche.
T'es malade, moi, j'irai
jamais. Tu vas rien faire du tout, toi.
Et qu'est-ce que tu vas faire d'un bal ?
Tu vas faire 30 euros.
Ah ouais ? Bah vas-y.
Allez.
Arrête. Lâche-moi.
Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu lui as fait quoi ? Hein ? Tu lui as fait quoi ?
Mais je sais pas !
Qu'est-ce que tu lui as fait ? Hein ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?
Une fable écologique et fantastique se déroulant dans un décor aussi sauvage que les autochtones qui y habitent. Des autochtones fiers, au caractère bien trempé, qui s'appellent presque tous César, et sortent la carabine quand on les escagasse un peu trop. Vous l'aurez compris, toute ressemblance avec une île française n'est évidemment que pure coïncidence. Sinon, pourquoi aurions-nous changé les noms ? Une île où le temps semble s'être arrêté et où les flics tapent encore à la Machine, eh oui, en 2019. Une série signée Gaia Guasti et Aurélien Molas, que l'on a vu à l'œuvre dans Trauma, avec la jeune Noé Habitat, qui est assez formidable, qu'on a vu dans Le Grand Bain et Ava. Sergi Lopez, qui fait ce qu'il peut, et Laetitia Casta, très généreuse de ses formes, marchant de façon ultra chaloupée et fronçant les sourcils pour avoir l'air menaçante. Acteur studio, attention. C'est entièrement réalisé par Julien Trousselier et... Alors là, il y a un vrai mystère dans cette série. Ça a été le prix de la meilleure série dans la compétition française à Série Mania en mars dernier. Donc Benoît, je me tourne vers vous, puisque vous y étiez. Il n'y avait vraiment rien d'autre.
Vous êtes méchant.
J'ai été presque objectif.
Non, alors, déjà, le prix à Série Mania, c'est remis par des étrangers. Donc ils ont vu un certain
nombre
de séries.
Ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il y avait autre chose?
Moi, par exemple, je regrettais que Le Grand Bazar n'ait pas eu le prix de la meilleure série.
C'est quand même mieux.
Qui était beaucoup plus... moderne, etc., et qui était diffusé et mal diffusé sur M6, série de Baya Kasmi et Michel Leclerc. Donc, oui, moi par exemple, j'étais plus pour Le Grand Bazar, mais Une Île m'avait quand même intrigué quand je l'ai vu à Série Mania. J'étais sorti des deux premiers épisodes un petit peu inquiet, en disant oui, d'accord, c'est très beau, c'est bien réalisé, dans le sens où il y a des belles images, les scènes aquatiques sont assez étonnantes. Voilà, donc j'étais pris dans l'étrangeté. Après, j'avais noté qu'on était complètement dans le conte, donc dans toutes les images d'Épinal que peut véhiculer le conte. Ce jeu étrange, soutenu par la chorégraphie de Bianclaï, de Laetitia Casta. Voilà, bon, très particulier. Et puis, en reprenant la série quelques mois plus tard et en voyant la suite, ben, j'ai été happé, en fait. J'ai été happé en acceptant que, justement...
Vous avez été harponné.
Voilà.
Restons dans la métaphore aquatique.
Mais vous disiez, Xavier, que c'était typiquement la Corse qu'on nomme pas. Non, ce n'est pas la Corse, c'est une île. Et d'ailleurs, on y tape à la machine parce que c'est un monde qui n'existe pas. D'ailleurs, notre Sergi Lopez, il débarque d'une ville qui ressemble à Hong Kong. Et puis, à un moment donné, il arrive sur cette île qui ressemble un peu à la Corse, mais qui en fait n'est rien d'autre qu'une image complètement fantasmée. Donc c'est du pur fantasme, des pures images d'Épinal, et avec deux, trois renversements intéressants. Moi, j'ai été vraiment happé jusqu'au bout, et je trouve qu'au final, la série se tient bien.
C'est une série qui arrive sur la chaîne après Ad Vitam, et après Il était une seconde fois, de création originale de séries fantastiques françaises, qui, comme Une île, dans une certaine économie, joue à déconstruire les codes du genre en revenant sur les récits fondateurs ou sur les mythes fondateurs. Dans Ad Vitam, c'était le mythe de la vie éternelle. Dans Il était une seconde fois, le mythe du monde parallèle, le voyage dans le temps. Et ici, c'est le mythe des sirènes et leur pouvoir sur les hommes qui ne sont que des hommes, comme dit le personnage de Théa, donc joué par Laetitia Casta. Le premier épisode pose les bases du mystère et présente les protagonistes. C'est ce que tu disais, Benoît, une adolescente qui cherche qui elle est, Chloé, jouée par Noé Habitat, un groupe de pêcheurs au chômage, il y a un déficit de poissons dans les eaux, on voit des tonneaux entiers de produits toxiques qui sont jetés à la mer, ce qui explique quand même la situation critique. Une créature, donc, nommée Théa, mi-sirène, mi-mante religieuse, voilà, qui aime bouffer les hommes, un flic borderline qui lui aime manger chinois, et deux gardes de côte donc qui vont mener l'enquête. Donc après avoir dit tout ça, malheureusement,
après avoir dit tout ça,
la série, qui est un conte fantastique, donc ne tient pas vraiment toutes ses promesses. Le rythme est un peu ramolli, un peu raplapla, les articulations dramatiques ne sont pas toujours bien construites, ça manque de corps, ça manque de suspense, même si la tentative est louable. Je veux dire que c'est un pari intéressant en réalité, mais le résultat est un peu bancal. Ça manque de romanesque et ça manque de fantastique. Donc voilà, on a un peu les fesses entre deux chaises, pardon de cette expression, mais c'est ça.
Isabelle Danel, avez-vous succombé au charme de Laetitia Casta en pull mouillé pendant pratiquement toute la série?
Ben, vers la fin, oui, mais je voulais revenir sur cette notion d'une île, parce qu'on nous joue sans arrêt, c'est dire, redire, re-répéter dans les dialogues une île versus le continent, et effectivement on est dans la fable, etc., mais ça ne fonctionne pas, ça n'est que dit, ça n'est pas incarné à l'écran. Il y a rien qui fait de cette île, cette espèce d'endroit de fable un peu mystérieux, hors du temps et tout ça, parce que Benoît, vous disiez, il y a une machine à écrire parce que ça n'existe pas, mais il y a aussi, quand ça les arrange, des téléphones portables.
Dernière génération, oui, je suis d'accord.
Donc tout ça ne fonctionne pas, quoi. Après, voulant regarder les 6 épisodes, j'ai fini quand même, sur les 2 derniers épisodes, par trouver justement que la fable fonctionnait un peu mieux, que ça se resserrait, parce que quand on a les gardes-côtes qui gardent les côtes et qui gardent aussi les rêves sur la plage et qui vont aussi, enfin, à un moment donné, il y a 2 flics pour toute l'île, donc c'est un peu étrange aussi. Donc tout ça ne fonctionne pas, et puis à un moment donné, quand ça se resserre sur les 2 personnages, donc Théa et la jeune femme qu'elle est venue chercher, plus les deux ou trois qui s'occupent d'essayer de les sauver, ça devient un peu plus intéressant. Il y a un lieu assez étonnant, un décor avec des espèces de containers gigantesques où se passe un peu le climax final. Et moi, j'ai trouvé que là, tout d'un coup, justement, le côté île à queue, etc., qui ne fonctionnait pas du tout, là, dans cet espace qui est post-industriel, désaffecté, il se passait quelque chose, voilà, entre la terre et l'eau, entre le fait que dans ces containers, on peut noyer quelqu'un, etc., etc. Donc, j'ai marché. Un peu.
Un peu. On avait bien cru comprendre.
Mais saluons la prestation prudence de Noé Habitat, voilà, qui est
ça,
très, très
revanche,
bien.
Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, c'était une île ou ce qu'il en reste sur Arte, donc, en diffusion jusqu'au 16 janvier et que vous pourrez revoir sur Arte TV. Island in the Sun, un classique, un vintage du groupe Weezer, un groupe originaire de Los Angeles, était extrait de leur album Green Album, sorti en 2001.
France Inter. Une heure en série.
Miroir, mon beau miroir, c'est l'heure évidemment de l'effet miroir, la chronique de Benoît Lagane. Et à l'occasion du retour sur TF1
depuis le 7 janvier.
Oui, absolument, du détective hawaïen à la Ferrari rouge est une île. Hawaï, c'est quand même très bien pensé. C'est Magnum, mais au pluriel cette fois-ci dans l'effet miroir.
Effectivement, car Magnum revient sans moustache dans une série pas totalement déplaisante, mais bon, comme bon nombre de reboots, les reprises à zéro, pour traduire, ça reste loin derrière la version originale, et en particulier par rapport à ce que la série, justement, raconte de son époque. Alors, après avoir vu quelques épisodes de la première saison de ce nouveau Magnum, j'ai l'impression que finalement, la version avec Tom Selleck restera toujours plus puissante dans son discours que la version avec actuel. Pourquoi? Mais peut-être que avec le recul, alors bon, allez, au cas où on écoute cette chronique en archive dans 10 ans, et que peut-être je me serais trompé, mais j'ai l'impression que j'ai de sérieux doutes quand même sur le fait que cette version marquera autant que la version des années 80. Le problème en fait de cette vague globale de reboot des années 80 sur CBS, donc ils ont déjà fait MacGyver, ils ont déjà fait Hawaii Police d'État, mais ça s'explique d'abord par le pur besoin nostalgique d'aller piocher dans le passé, presque la force perdue de la télévision face à la concurrence des plateformes, alors qu'on devrait raconter d'abord son époque. Et ça, ça fait une sacrée différence. Le showrunner donc de Magnum s'appelle Peter Emlenkov, c'est lui qui a fait MacGyver et Hawaii Police d'État, et il suffit de revoir le reboot de MacGyver pour voir à quel point l'esprit progressiste de la version MacGyver des années 80 n'existe plus, et inversement, quand on regarde Hawaii Police d'État, on finit par trouver que la reprise est finalement meilleure que la série originale, parce
Pardon
que... Oui, meilleure que la série originale, parce qu'en 68, il n'y avait que le générique à sauver, et oui, parce que le personnage quand même revoyé est extrêmement réac. Du coup, au regard de ces reprises, une question se pose, ce fameux Peter Lenkov a-t-il accès au sous-texte politique des séries qu'il reprend? C'est une question que je pose.
Car il n'y en a pas non plus de sous-texte politique dans cette nouvelle version de Magnum.
Eh bien, si l'esprit fun a été conservé, ça, c'est le côté pas désagréable, l'aspect politique, lui, est une fois de plus un peu plus flou, ou moins présent, résumé des épisodes précédents. Car Hawaii Police d'État, justement, s'arrête en 1980. Magnum arrive pour le remplacer sur CBS. Le détective moustachu est alors moins réac. D'ailleurs, la racaille communiste n'est plus le seul ennemi à abattre sur l'île. Mais la reconversion professionnelle de Thomas Sullivan Magnum, ça lui permet surtout de réapprendre à vivre après le Vietnam. C'est plus complexe et plus compliqué que l'aspect fun de départ. D'ailleurs, c'est une série que l'on doit à Donald Belisario, qui avait vécu l'armée de près. Il avait été dans la Navy dans les années 50. Du coup, quand il oppose les regards entre grande guerre de l'histoire racontée avec lyrisme par Higgins et la dureté de celle du Vietnam qui hante l'américain Magnum, eh bien tout ça montre d'une vision politique de la série. D'autant plus qu'à l'époque, les vétérans du bourbier vietnamien avaient eu une image à la télévision et au cinéma assez désastreuse, et que sous Reagan, on veut en faire une noble cause. Du coup, c'est un acte politique que de mettre en héros dans une série fun un ancien du Vietnam. Là, dans la version actuelle, mais il n'y a rien de tout ça. C'est un peu l'image de ce nouveau générique. C'est à la fois semblable et différent. C'est fun, mais raccourci. Et oui, Magnum a vécu l'Afghanistan et pas le Vietnam. Bon, et Higgins est toujours britannique, mais il ne se prénomme plus Jonathan, mais Juliette. Il fait de Higgins donc une femme, la supérieure de Magnum. Bon, dans le contexte actuel, pourquoi pas. Mais du coup, on en perd le trouble qu'il y avait entre Higgins et Magnum. Oui, le trouble qui existait dans les années 80. Excède les sous-textes de la relation amour-haine, donc entre ces deux personnages, celle d'une relation père-fils pas vraiment réglée, ça c'était l'idée du créateur, ou celle d'une relation plus crypto-gay, appréciée par beaucoup dans les années 80.
Merci Benoît. Rappelons que Magnum, l'original, avait fait l'objet d'un crossover avec la meilleure série de tous les temps, mais que vous n'avez pas cité dans
Arabesque.
Votre débat. Arabesque, bien évidemment. Et c'est l'heure du troisième débat, The Witcher sur Netflix. 9 épisodes, une série américano-polonaise très attendue, ou en tout cas annoncée comme le nouveau Game of Thrones.
J'ai entendu maintes histoires sur ton espèce, sorceleur. Tu es un mutant, le fruit de la magie. Tu parcours le continent.
On veut personne de ton engeance ici.
Tu traques les monstres pour de l'argent. Je croyais que tu aurais des crocs ou des cornes, que sais-je.
Je les ai limés avec soin. Ne me juge pas.
On dit que les sorceleurs ne ressentent aucune émotion. En quoi crois-tu ?
Alors, The Witcher, le sorceleur en français, là, il faut quand même un petit peu se mordre les lèvres pour ne pas rire, est une adaptation des romans de Andrzej Sapkowski, dont nous parlerons dans quelques instants. Ce sont les aventures de Geralt de Rive, un sorceleur, un chasseur de créatures assoiffées de chair humaine, un homme aux yeux dorés et aussi impassible qu'une statue du musée Grévin. Sur sa route, il va croiser un ménestrel, un rien collant et agaçant, personnage totalement inutile, mais bon, bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais aussi Yennefer, une sorcière cabossée qui se rêve en carabosse. pas mal ça. Ouais. Cabossier qui serait monté à bottes. J'aimerais quelques applaudissements autour de la table, mais je suis modeste, donc non. Et puis il croisera également la route de Ciri, l'héritière d'un royaume anéanti qui se découvre également d'étranges pouvoirs. C'est créé par Lauren Schmitt, qui est un pur produit de la maison Netflix, puisqu'elle a été productrice entre autres sur Umbrella Academy et sur Dadville. C'est avec Henry Cavill, agent très spéciaux et Mission Impossible 6.
Et whatever works.
Voilà, nous avons déjà une fan sur le plateau, elle se liquéfie. Van ne peut pas le prononcer le nom d'Henry Cavill.
Cette série.
Perdre ses moyens. Il y a également Anya Chalotra qu'on avait vu dans ABC Murders. La saison 2 est déjà commandée. Alors, Pierre Langlais de Télérama parle d'une série formatée, maladroite et visuellement assez laide. Je ne donne pas complètement tort. D'après les chiffres récemment dévoilés par Netflix, la série serait en deuxième place des séries les plus regardées en 2019. Alors, c'est un calcul d'algorithme puisqu'elle a commencé en décembre. Donc, faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. On sait faire des comptes. Mais néanmoins, ils avancent le chiffre de 127 millions de vues rien que pour la première semaine. J'aimerais connaître les chiffres de la seconde semaine. Ava, vous êtes à la fois fan d'Henry Cavill. Là, vous n'êtes pas très nombreux, mais également spécialiste de Game of Thrones. Il y a un peu plus de monde.
Ça fait mal.
Évidemment, évidemment, je vous demande d'ouvrir le débat.
Eh ben pour moi, ça a été un cauchemar de regarder
cette série.
Voilà, elle a un côté nanardesque qui n'est malheureusement ni voulu ni recherché. C'est la productrice et showrunneuse, vous l'avez rappelé, Lauren S. Isrich, qui était derrière cette adaptation d'Ardeville qu'elle a commis. Voilà, donc on pouvait déjà sur le papier avoir des doutes et peu d'illusions, à vrai dire. Alors j'avoue, je ne vais pas trop vous aider parce que je ne connais pas les romans dont la série fait l'adaptation, ni le jeu vidéo, visiblement célèbre, qui connaît depuis la diffusion de la série un regain de popularité. Bref, tout ça a été certainement un frein à la compréhension globale ou au sens de cette série pour moi. Je me suis sentie complètement perdue dans cet univers d'heroic fantasy qui surfe de façon très opportuniste sur le succès de Game of Thrones, mais qui n'en a pas les atouts majestueux. Game of Thrones, c'est un équilibre savant d'ingrédients bien dosés, de la surprise, de la terreur, de la stupeur, des personnages ambivalents. Là, on a strictement rien de tout ça. Le résultat, c'est une série sans âme, sans style, avec des enjeux mal dégrossis, des personnages mal détaillés. Je suis restée à la porte complètement de ce monde imaginaire et moyenâgeux. Et même ma passion pour Henry Cavill en a pris un coup. Il est dans ce rôle Gérald de Rive, complètement bidon. Un tueur de créatures monstrueuses que plusieurs personnes veulent instrumentaliser pour qu'il tue ses propres ennemis, leurs propres ennemis. Un chasseur de primes, donc, qui essaye de rester droit dans ses bottes. Et Cavill fait dans la partition taiseuse et assez soporifique. C'est du divertissement très pompeux, franchement, qui se veut moderne, par ses dialogues et par les positions que tiennent certains personnages. Il y a des répliques qui fleurent bon le féminisme, c'est pas pour me déplaire, mais on voit là encore l'opportunisme derrière tout ça, quoi. Voilà.
Isabelle Danel.
Alors, je suis pas d'accord avec vous sur l'ambivalence, parce que cet homme est quand même moitié motard en Sky et moitié Rahan, fils des âges farouches. Si ça, c'est pas de l'ambivalence, quand même. Non, c'est épouvantable. Et il y a quand même des choses hallucinantes. C'est un mastodonte qui combat des tas d'animaux en plastique, mais gluant tout de même.
Les effets spéciaux sont horribles.
Il dit pas un mot, il grogne, mais il dit fuck à tout bout de phrase quand même. Il parle à son cheval, ça j'ai quand même beaucoup aimé. Enfin, c'est comme dans les films de Disney.
Voilà.
C'est très très étonnant. Alors, je suis un peu rassurée par ce qu'Ava vient de dire, parce que moi je me disais voilà, c'est le jour où je vais sortir du placard, où je vais avouer qu'effectivement, le dernier combat de sorcier qui m'a un peu plu moi, c'était dans Merlin l'Enchanteur, entre Madame Mime et Merlin.
Ah oui, c'est très très jeune.
Je n'aime les gorgones, les elfes, les faunes et les farfadets que dans la génialissime chanson de Jacques Higelin, Champagne. C'est pas un esprit magique pour moi, un jean, c'est la base de ma garde-robe. Ou alors, éventuellement, ça s'écrit G-I-N et c'est une boisson alcoolisée qu'on mélange à du vermouth dry. Secoué, patouillé, avec deux olives dans les films de James Bond. Bref, je dois vous le dire, je ne suis jamais, Ava, vous savez que je vous aime, je ne suis jamais allée au bout du troisième épisode de Game of Thrones.
Aïe.
Donc je me disais, j'ai pas les codes, je me rends pas compte. Donc là, vous me confirmez que c'est pas une question de code, c'est vraiment une question de qualité. Merci.
Bon, alors, c'est pas une série pour les filles, c'est du viril, ouais. C'est un héros, il a du muscle, il a une grosse épée, il sait bien la manier, il va abattre toutes les méchantes créatures, donc évidemment, je me tourne vers celui qui lui ressemble le plus autour de cette table.
Benoît Lagan,
bien évidemment.
Alors, non, moi, je suis le mix en travail et Isabelle. Je n'ai jamais été grand fan de Game of Thrones.
Jamais. Ça m'a jamais vraiment parlé. J'ai trouvé ça toujours très compliqué. Et là, j'entends dire que cette série serait très compliquée. Non, malheureusement, elle est pas si compliquée. Elle est hyper simpliste. En fait, la structure de cette série, c'est si Game of Thrones était de la dynastie en fantasy, alors ça, ce serait l'homme qui tombe à pic en fantasy. C'est-à-dire que c'est...
Mais arrêtez de le vendre comme ça, les gens vont la regarder.
Mais non, mais c'est-à-dire que si on veut un truc un peu rigolo, second degré, qu'on regarde avec le second degré en se marrant, alors on peut le regarder, et on peut regarder un épisode par-ci, et à un moment donné, il y aura toute une scène pour nous faire Game of Thrones, où ils nous sortent des noms qu'on comprend pas, avec des peuples qu'on connaît pas, et qu'on verra peut-être un jour. Mais que c'est pas grave, parce qu'au final, ça peut être se regarder aussi comme un pur plaisir, comme ça, le dimanche après-midi. Donc, pour à cet endroit-là, pourquoi pas? Après, je suis assez d'accord, moi, ce qui se trouve là, parce que la structure... Hein, bon, elle est volontairement comme ça, donc pourquoi pas. Ensuite, les effets spéciaux sont un petit peu ratés, et il y a des personnages effectivement que j'aimerais voir soit mieux exploités ou moins rapidement peut-être. Le personnage justement de Yennefer, cette fameuse bossue qui devient très belle, je trouve que sa trajectoire,
qui intègre une école de sorcières,
voilà, sa trajectoire est trop rapide.
Ah ouais, le côté Harry Potter, c'est
complètement... mais j'aime bien le personnage un petit peu de barde qui écrit des chansons à chaque fin d'épisode, qui nous résume, et là on a l'impression d'être dans la Reine des Neiges. Non mais
repense à Michael Palin dont on parlait.
On comprend mieux pourquoi dans Astérix on le ligote et on le baïonne.
Tout ça veut dire que on peut aimer, moi je peux comprendre qu'on aime regarder, c'est finalement, allez, ces dernières références, c'est Hercule et Xena qui a rencontré Game of Thrones. Mais
oh
ce n'est
là
plus
là,
ni
de point. Loin. Hein.
Mais de loin, oui.
Et une saison 2 est déjà dans les rails. Hein,
ah oui, Netflix compris, adore, ils annoncent donc des chiffres discutables, on peut le dire.
Mais on est dans le phénomène de société, c'est-à-dire que moi, un jeune homme que j'aime tendrement à Noël a essayé de m'expliquer, il a lu tous les livres, il joue aux jeux vidéo, et il était à fond dans la série et comprenait pas pourquoi je comprenais pas et j'aimais pas. Donc bon, voilà, c'est phénomène de société.
Juste pour dire que le jeu a été beaucoup, 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 beaucoup joué et téléchargé beaucoup plus depuis la série. Donc il y a un vrai effet.
Nous venons de parler de The Witcher sur Netflix. Il avait rencontré plein de monstres, mais il ne s'était pas mesuré à nos chroniqueuses et mon chroniqueur. Et je crois que là, un game over.
John met you down on the boulevard. Cry on his shoulder, cause life is hard. The waves came in over my head. What you been up to, my babe? Haven't seen you around here late. All of the guys tell me lies, but you don't, you just crack another. Still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Joe met me down at the training yard. Cuts on his face cause he fought too hard. And now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold dear. Forget the things they fear. This is how to disappear. This is how I'm to disappear. Thank you. cats in the yard, the California sun and the movie stars. I watch the skies getting light as I write, as I think about those years, as I whisper in your ear, I'm always gone to be right here. No one's going anywhere.
Charme, du trouble, du mystère et de l'envoûtement, il y a dans la chanson de Lana Del Rey, Out in the Pear, tout ce qui manque à la série The Witcher. Cet extrait de son dernier album Norma Fucking Rockwell, elle sera le 23 février 2020 à l'Accor Hotel Arena à Paris avant d'entamer une tournée à travers l'Europe.
France Inter, une heure en série.
Bref, petit conseil littéraire pour vous inviter à découvrir plutôt la série des romans Le Sorceleur, donc The Witcher, qui est une série littéraire, je l'ai cité tout à l'heure, écrite par Andrzej Zakopski, publiée entre 1990 et 2018 et vendue à 15 millions d'exemplaires, ce qui n'est quand même pas rien. En France, c'est édité chez Big Bang. Le premier tome est intitulé Le Dernier Vœu, qui n'est pas vraiment un roman, mais plutôt une série de nouvelles, d'épisodes courts, dont la plupart d'ailleurs ont servi de base pour la première saison de la série de Netflix. C'est de la pure littérature pour ados. Mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, surtout comme dans le cas présent, lorsqu'elle possède à la fois de l'imagination, du souffle et une belle érudition littéraire. Imagination des récits qui revisitent l'héroïque fantasy avec un héros neurasthénique, on l'a dit, dans un style sec et efficace, du souffle avec un réel sens de l'écriture épique, et enfin une érudition littéraire dans sa manière de redonner vie à des mythes oubliés et des contes de fées, comme par exemple un chapitre consacré et assez rigolo et assez savoureux à La Belle et la Bête, franchement plus intéressant que la série. Et c'est l'heure du plateau télé. Comme on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent hein, cette semaine, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Je vous laisse recommander à nos auditeurs de quoi se substanter Isabelle, The Good Fight.
Oui, alors 3 saisons de 2017 à nos jours, créées sur NCBS All Access par Michel et Robert King. C'est ce qu'on appelle en anglais un spin-off, c'est-à-dire, on le répète à chaque fois, mais il faut, une série qui reprend un personnage récurrent d'une autre série. Je vous ai parlé il y a 13 semaines de The Good Wife. Vous avez donc eu, chers auditeurs, largement le temps de voir les 6 saisons qui couvraient les années Obama et de tomber gâteux comme moi du personnage de Diane Lockhart, interprétée par Christine Baranski, cette avocate au grand rire contagieux, cette bourgeoise américaine de la tête aux pieds, démocrate dans l'âme, en proie à un certain nombre de contradictions dans le cabinet où elle travaille, comme dans sa vie privée, puisqu'elle aime un républicain porté sur les armes et l'autodéfense. Voici donc The Good Fight. C'est comme The Good Wife, très bien écrit, ça prend sa source dans l'air du temps et l'actualité. Le premier épisode voit l'élection de Donald Trump, ce qui déclenche chez Diane un imminent désir de partir. Mais au dernier moment, son argent disparaît dans une espèce de malversation et ses rêves de retraite dorée sur la Côte d'Azur s'envolent. Elle change de firme, se retrouve dans un cabinet spécialisé dans la lutte contre les violences policières où elle est la minorité visible puisqu'elle y est une des rares femmes blanches. Racisme, sexisme, mouvement MeToo, le rapport à l'argent et au pouvoir, ça dépote dans des épisodes souvent très politiques, assez osés dans la contestation envers Trump et constamment malin et drôle. The Good Fight sur Amazon Vidéo.
Merci beaucoup Isabelle. Mon plateau télé cette semaine, c'est Magnus, une série actuellement diffusée sur Série Club à la demande mais qui sera très prochainement programmée sur la chaîne. 6 épisodes juste impossibles à résumer et ce n'est pas là la moindre des qualités de cette série frappadingue qui repousse les limites de l'absurde et de l'insolite sur un canevas d'intrigue policière et fantastique. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Soit donc les aventures de Magnus Udredal, flic maladroit, maniaque, psychorigide, détesté par toute sa hiérarchie, mais également inventeur génial à ses heures perdues, Il adore aussi se déguiser, de préférence en fauteuil de salon ou en meuble de bureau. Voyez la série, vous comprendrez. Bref, un croisement entre Wallace, le Q de James Bond, et Pierre Richard. Dans cette première saison, et on espère secrètement qu'il y en aura d'autres, Magnus enquête sur la mort étrange d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel et sur la disparition d'une star poltronne du cinéma d'action. Une investigation azimutée qu'il mènera avec un collègue suicidaire et un gamin de 11 ans solitaire. Une enquête où il sera question d'un passage vers une autre dimension, de vie éternelle, de complots menés par les Américains, de trolls et d'autres créatures mythologiques dont certaines très portées sur la copulation. Je ne sais pas ce que prend comme substances illicites Vidar Magnusson, l'auteur, réalisateur et interprète principal de cette production norvégienne, mais c'est de la très bonne, je veux absolument partager avec lui. Magnus, c'est la rencontre explosive et hilarante entre les romans de Jonas Bo, les Monty Python et X-Files, un n'importe quoi jubilatoire et goulayant, hautement recommandé sur Série Club à la demande. Ava, que nous recommandez-vous cette semaine ?
La méthode Kominsky, qui est actuellement diffusée sur Netflix. C'est une série créée par Chuck Lorre, qui est producteur de sitcoms comme Mon Oncle Charlie ou The Big Bang Theory. La méthode Kominsky compte déjà 2 saisons et a reçu le Golden Globe de la meilleure série comique en 2019. C'est l'histoire d'une ancienne vedette de cinéma reconvertie en coach d'acteur pour comédien qui débute à Hollywood. Sandy Kominsky est interprétée par le génial Michael Douglas, qui, dans ce rôle tragicomique, se révèle extrêmement touchant. Il a déclaré en octobre dernier « J'ai 75 ans, je veux profiter de la vie » et son personnage dans cette série aimerait en faire tout autant si certaines de ses angoisses existentielles ne lui collaient pas à la peau si ardemment. Douglas forme à l'écran un duo avec le non moins talentueux Alan Arkin et ça donne à la série un côté bromance, buddy movie ou buddy série, la série de potes, d'amis. C'est attendrissant avec 2 octogénaires donc dans les rôles-titres. On suit avec bonheur les tribulations de ce duo fatigué mais drôle à souhait. Des vannes sur la prostate, la perte de libido liée à l'âge, la peur de mourir évidemment. Tout ça, la série l'aborde avec un certain panache et beaucoup
et
de dérision.
Beaucoup d'humour.
Absolument. Il y a un esprit très frère Cohen et Woody Allen, un rythme nonchalant qui est au diapason de celui des protagonistes. Bref, c'est assez délicieux.
Merci beaucoup Ava, la méthode Kominsky sur Netflix. Netflix avec Michael Douglas. Voilà, une heure en série, c'est fini. Merci mille fois d'y avoir participé, chère Ava Kahn, chère Isabelle Danel et cher Benoît Lagane. Nous vous avons recommandé cette semaine ou pas The Loudest Voice sur Canal+, où ils en étaient plutôt quand même partant. Une île, moi je suis un peu resté à quai, si on peut me permettre ce mauvais jeu de mots, bien sûr. Et The Witcher qui ne nous va pas du tout ensorceler. Je crois que malheureusement le bilan est assez évident. La semaine prochaine, nous évoquerons The Catcher sur Starzplay. Ça c'est quand même un peu ma série chouchoude, mais vous me direz ce que vous en pensez. Dracula sur Netflix, une série très attendue. Et Fête des Gosses sur France 2. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, comme la chronique de Benoît Lagane, l'effet miroir, bien évidemment. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer du courrier, n'hésitez pas. Et je vous invite demain à retrouver, bien évidemment, Jérôme Garcin dans Le Masque et la Plume. Une heure en série, une émission réalisée, comme chaque semaine, par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez. Nous avons préparé l'émission avec Amel Kaldi et à la technique cette semaine, Clément Berman.